C'est pas possible, bah d'accord.
C'est l'heure de la matinale.
Super, là faut aller à pied, hein.
Le ciel gris glace l'air qui passe en rafale entre les carcasses de tôles montées sur quatre roues.
Les blancs floclons de neige recouvrent les pare-brises et transforment en cocon les intérieurs design.
Aujourd'hui, le soleil se lèvera à 8h41 et se couchera à 17h16.
Nous fêterons les Tatiana, mais aussi les Tania et les Césarines.
La température extérieure maximale sera de 6 degrés.
Il est annoncé des chutes de neige sur la A747.
Nous sommes le lundi 12 janvier 2012.
Et c'est normal, c'est la matinale.
C'est normal, c'est la matinale dédiée aux habitants de la A745. Nous nous faisons relais d'informations pour toutes les personnes bloquées sur cette autoroute. Et justement, nous sommes en contact avec un automobiliste qui doit être en ligne avec nous. Allô, bonjour.
Allô, oui, bonjour.
Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous?
Alors, Berlingot Blanc. Hein,
Et vous habitez où?
Bonjour monsieur Berlingot.
Bonjour, bonjour, j'habite au kilomètre 643.
Eh bien bonjour monsieur Berlingot Blanc, cela sonne bien votre nom, dites-moi. Alors vous avez une information à nous faire passer, on vous écoute.
J'ai une information assez terrible, assez bouleversante, parce que oui. Mon patron, en fait, a cassé sa pipe cette nuit.
Ah là.
Eh oui, je suis vraiment désolé, son pacemaker, la pile de son pacemaker s'est déchargée. Et là, il est à côté de moi tout froid et je suis bien embêté. Hein.
Qu'est-ce que vous allez faire du coup là? Comment?
Alors, je me disais que le 38 tonnes du kilomètre 78, là, maintenant, il doit être vide.
Oui, ça fait depuis 4 mois, c'est possible, ouais.
Voilà, c'est ce qui me semble. Alors, je me disais qu'on aurait pu faire la cérémonie à l'intérieur. Parce
d'accord.
Comme ça, voilà. Alors, je voulais faire passer cette information.
Voilà. Écoutez, c'est vraiment sympa pour lui. Je suis sûr que ça lui ferait plaisir. On vous remercie, monsieur Berlingot Blanc. On transmet vos demandes, bien sûr, à l'ensemble des embouteillés de la A747.
Notamment à monsieur DS3, hein, qui était propriétaire à l'époque du 38 tonnes.
Oui, semble-t-il. Oui.
Et toutes nos condoléances.
Ah, je vous remercie. En tous les cas, c'est sympa d'être là, les copains, parce que ça me remonte le moral. Hein.
Ok, c'est normal. C'est notre mission. Bonne journée, monsieur Berlingot Blanc.
Bonjour. Bonne nuit, au revoir, salut. Les jeux sont faits et rien ne va plus. Une cocotte au cabaret, un général sur les Champs-Élysées, des sans-culottes à la Bastille, monsieur Guillotin et madame Guillotine, Françoise Hardy, Jacques Dutronc, Joséphine et Napoléon. C'est comme si, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la mort. C'est comme si, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la mort, c'est la mort.
La matinale.
Bonjour, je vous rends point d'après. Merci.
C'est normal.
C'est normal, c'est la matinale. Je vous propose ce matin un reportage exclusif que nous sommes allés réaliser nous-mêmes avec nos petits pieds, n'est-ce pas, Asphalte, avec tes petits pieds?
Tout à fait. Perdus dans la montagne, nous sommes allés à la rencontre de deux drôles de scieurs, les frangins de la combe de la, les frangins de la combe de Lancé. C'est le nom de ce reportage.
La pluie est fine mais tenace le long des lacets de montagne qui mènent à Comblancé. Là, les explications données par téléphone indiquent un chemin en contrebas qui accède à l'ancienne scierie de la famille Bergès, abandonnée pendant des années avant qu'un homme, la quarantaine, scieur depuis toujours, ne décide de la reprendre et de relancer la vieille scie à ruban. Il s'appelle Philippe, reçoit dans le bureau qui est aussi l'atelier, pêle-mêle de factures et de clés de 22. De l'autre côté de la cloison, il y a un hangar ouvert aux quatre vents, où un homme, un autre, devant la scie à ruban, débite le bois. C'est le frère de Philippe.
Xavier, mon frère. En fait, on s'est aperçu que c'était un projet qui était intéressant, parce que ça donnait de la vie dans le pays. C'est-à-dire qu'on a... On s'est tout de suite aperçu que les gens ils avaient plaisir à revenir dans la scierie pour voir ce qui s'y passait. Et du coup, les gens, il y a beaucoup de monde qui s'est retrouvé à discuter ensemble dans la scierie. Nous, forcément, des fois, on avait du travail à faire, on n'avait pas forcément le temps de les écouter.
Non, c'est un peu visiteur.
Comme ouais, ça, voilà, quoi. Voilà, c'est ça. Donc après, et puis les gens passent. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Et voilà, quoi, il y a une dynamique qui s'est recréée. Donc, c'est vrai que ça, on s'est aperçu que c'était quand même important. C'est sûr que le gars, s'il a 1 m3 de bois ou 2 m3 de bois ici, à la Combe de Lancé, ou Saint-Mury, ou Revel, ou Saint-Jean-Vieux, il va pas descendre, le vendre à la scierie, une scierie qui va être plus loin dans la vallée, quoi. Parce que, il va y passer sa journée pour rien du tout. À partir du moment où vous nous amenez un bout de bois dans la cour de la scierie, on vous l'achètera. Pour autant que ce soit pas un bois à broyer, quoi. Mais si c'est un bois que les gens d'ici connaissent, ils ont quand même un minimum de connaissances sur la filière et sur le bois, donc ils savent ce que c'est qu'un joli merisier, un joli frêne et c'est à ce moment-là quand ils ont la possibilité de nous l'amener, parce que généralement c'est un petit tracteur, une remorque, ils font leur bois, ils ont des treuils, ils bricolent pas mal. Nous on a toujours dit, il arrive dans la cour, on prend le barème des tarifs. Au cube, on paye, on prend le bois. Et ça, c'est important de créer une dynamique comme ça. Et ça, c'est un type de client qui du coup deviennent nos fournisseurs. Le gars, il fait ça, il récupère son argent, ça fait un petit peu, ça met un peu, quoi. Ça crée une économie rurale. Voilà, c'est la logique de l'économie rurale, quoi. C'est pas facile de gagner sa vie avec ça. Mais en même temps, je me dis que si on réfléchit uniquement sur de la rentabilité économique, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a des zones entières dans lesquelles plus rien va se faire, quoi. Parce que c'est évident qu'aujourd'hui, il vaut mieux être à 200 mètres d'une entrée d'autoroute qu'à 1000 mètres d'altitude, dans un coin paumé. Voilà, quoi. C'est quoi, pour moi, une entreprise, c'est un élément important dans une société, quoi.
Tandis qu'il nous explique Philippe, son frère scie, jeune homme long et fin courbé sur la scie à ruban, alors que Philippe serait plutôt trapu et les avant-bras de celui qu'on a porté de la grume, de la planche, du bastin, du carrelet, du bois.
Donc c'est ça aussi. Alors du coup, là maintenant, on est reparti là-dessus et on essaye de créer une dynamique dans une logique artisanale. C'est-à-dire qu'on essaye de mailler avec d'autres artisans de la filière bois. Il y a des menuisiers, il y a des charpentiers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tous ces gens-là, il y en a un certain nombre qui sont sensibles à la notion de proximité. Et puis il y a aussi des gens qui ont la même idée que nous, quoi. Faut pas forcément chercher la facilité. Et il y a aussi une volonté de développer, quoi, de maintenir des vraies activités chez nous, quoi. Alors c'est la microélectronique, je veux bien, mais c'est parachuté, quoi. C'est pas silicium, mais pas naturellement dans la vallée du Grésivaudan, quoi.
C'est normal, la matinale, on interrompt quelques instants le reportage car un habitant de la A747 cherche à nous joindre. Allô ?
Allô, oui, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur. Comment vous appelez-vous ?
Monsieur Cordon.
Cordoba Gris.
Bonjour Monsieur Cordoba Gris, et vous habitez ?
Kilomètre
412, très bien. Alors si j'ai bien compris, vous nous appelez parce que vous voudriez nous donner un conseil pour réaliser un bon nœud, c'est cela ?
C'est ça. En fait, parce que j'ai vu que ça avait, il y avait des problèmes avec tout ça et que ça avait l'air compliqué.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Et donc pour les constructions en bois, il y a un nœud de base, il s'appelle le cabestan.
Le cabestan, très bien.
Alors
très bien,
comment on fait le nœud de cabestan ? Le cabestan.
Alors,
en fait, le nœud, c'est un nœud, c'est deux verticales barrées par une diagonale. En fait, pour bien le visualiser, c'est un tour vertical barré par une diagonale et un deuxième tour vertical sous la diagonale.
Oui,
pour faire, c'est assez simple. Vous prenez votre fil, vous faites le tour du bois.
Ouais.
Ensuite, vous faites un deuxième tour en croisant le fil, donc en le passant par dessus votre premier tour.
Ouais.
Et vous finissez en passant votre fil sous le fil qui croise.
En passant sous le fil qui croise, ouais.
Voilà. D'accord. Et voilà, après le
cabestan,
il est fait.
Ok, super, Monsieur Cordoba Gris.
Je crois qu'on a bien
c'est
compris.
Très clair,
et
c'est très clair.
Voilà, qui devrait éviter de nombreux accidents à l'avenir. Merci.
Bonne journée.
Bonne journée, bon courage.
Deux frères ont repris une vieille scierie à la Combe de Lancé où ils développent un projet d'économie très local. Au plus proche de la réalité des propriétaires forestiers de ce coin de la vallée, ils exploitent une ressource difficile d'accès, difficilement rentable, mais où la richesse se trouve peut-être ailleurs. Les deux frangins de la Combe de Lancé, c'est le reportage du jour.
Philippe explique et son frère si. Il a un diplôme de droit international, Bac plus 5, a travaillé pour une ONG droits de l'homme, est parti au Brésil, s'est fait mettre en joue dans les sucrières, a réalisé des missions au Congo, Kinshasa. Puis il est revenu. Il a arrêté, décidé de donner un coup de main à son frère.
Aujourd'hui, il y a des marchés qui échappent, on va dire, à la filière traditionnelle, au profit, on va dire, de la grande distribution, parce que justement, il y a moins d'opérateurs. Et ça, je pense que c'est aussi un souci. Alors, moi, je rêverais qu'il y ait à nouveau une scierie qui se réinstalle dans chaque commune du Balcon de Belledonne, ou une sur deux. Ce serait le top, quoi, parce que du coup, ça permettrait de redynamiser, parce que la scierie, c'est quelque chose qui plaît aux gens, quoi, c'est tangible, quoi, il y a du contact, il y a de la proximité, tout le monde sait ce que c'est qu'un bout de bois. Mais c'est vrai que ça surprend toujours de voir comment, d'un moment à l'autre, un bout de bois devient de la planche, devient une pièce de charpente. Ça, c'est passionnant, quoi. Moi, je pense qu'il faudrait se poser la question, notamment au niveau du développement dans la vallée, au niveau du pays du Grésivaudan, c'est de voir comment on pourrait redynamiser volontairement, de manière volontariste, une vraie filière bois de montagne, pour justement que cette zone-là du Balcon de Belledonne, elle retrouve un peu... une vraie identité, quoi, que ce soit pas que de la zone dortoir, quoi.
Le frère, si. Il s'est formé avec Philippe. Il ne veut plus quitter Grenoble pour l'instant. Il aime trop les montagnes. Et puis, les problématiques locales que soulève son frère avec la scierie l'intéressent. Alors, il l'accompagne.
Je pense que le bois s'impose parce que c'est un matériau dans les matériaux renouvelables, c'est évident que c'est quand même le mieux placé. Bon, le bois c'est un très bon matériau, mais il y a des règles de mise en œuvre. C'est pas forcément compliqué, mais si on ne les respecte pas, c'est grave, quoi. Aujourd'hui, c'est le tout bois. C'est beaucoup de bois, on veut vendre beaucoup de bois, mais aujourd'hui, il y a personne qui sait ce qu'il faut dire aux clients, quoi. On n'est encore pas bon commerçant. Aujourd'hui, on parle de classe 3, on parle de classe 4, on parle de mélèze, on parle de... Mais c'est pareil, je veux dire, les gens, ça c'est du texte, quoi. En pratique, vous allez prendre 3 mélèzes, 4 mélèzes, il n'y en a pas un qui va avoir le même comportement. Et aujourd'hui, on est dans une logique où il y a énormément de gens qui vont vers le bois parce que c'est la tendance, mais qui connaissent pas le bois, qui savent surtout pas comment on le met en œuvre et qui sont là pour faire du business, quoi.
On va redescendre dans la vallée, hein.
Allez-y, ouais.
Allez, saluer ton frangin, là, voir s'il est toujours...
Ouais, ça a
l'air d'être pas passé à faire un rêve.
Si son frère sait, c'est qu'à un moment, il n'a plus supporté les escroqueries, le détournement de financement, cornaqué par des types qui vendent des projets fantômes de développement en Afrique à coups de PowerPoint, de formules qui font mouche, de jargon. Le jargon, toujours le même, présent aussi ici. C'est le soir, Philippe et son frère sont à une réunion publique sur la filière bois et son avenir. Un vidéoprojecteur défile les slides PowerPoint de l'animateur. Le frère sourit. Sensibilisation, accès à la ressource, approche économique, le jargon. Toujours le même. Animé par des spécialistes de l'audit capables de réaliser une synthèse sur n'importe quel sujet pourvu qu'ils aient un PowerPoint. D'ailleurs, celui qui est diffusé ce soir en rappelle un autre, diffusé des années auparavant.
En fait, tu peux essayer jusqu'à 20 mm. Là.
Voilà. Parle de ça, là. Ça, c'est aussi,
là. Là, t'as les deux. On arrive jusqu'à 20. En fait, le principe, c'est que tu dresses un côté. Ouais. Normalement, tu retournes ton bois. Voilà. Tu viens caler, tu viens caler ton côté coupé. Après, tu fais la parallèle. Après, tu poses à plat. Tu fais ton troisième côté. Et après, tu retournes et là, tu tires tes plans.
Rentabiliser, restructurer les petits propriétaires, créer des grandes parcelles. Oui, c'est bien ce qui avait été dit pour l'agriculture, toujours les mêmes recettes, avec le succès que l'on sait. C'est ce qu'essaie d'expliquer Philippe à l'animateur. La réunion est finie, tout le monde est au buffet et l'animateur n'a Dieu que pour l'élu qui est avec lui. L'animateur est un peu gêné de ce gars qui pourrait gêner l'élu, cet artisan de la lame qui débite en une année ce que fait une série en un jour. Mais Philippe s'en fiche. Il continue, il parle, il se questionne, cherche des réponses. Rentabiliser, accès à la ressource, PowerPoint, non, il y a sûrement... Il est plus que temps d'essayer autrement. Et c'est bien pour cela que lui et son frère ne lâchent pas la scie à ruban dans ce hangar ouvert aux quatre vents au bout de la condensée.
On remercie les deux frangins de la Combe de Lancer pour cette belle journée qu'ils nous ont fait passer en leur compagnie. Déterminés qu'ils sont, si vous avez du bois à acheter ou à vendre, n'hésitez pas à leur rendre visite.
C'est matinal, c'est normal, c'est la matinale.
Laissez-vous aller, détendez-vous, parcourez votre imagination, écoutez les oiseaux chanter, la rivière qui coule.
Love and pleasure.
Perdu seul avec toi, les feuilles sont des démons et nous tiennent pour de bon. Los de Django, Los de Django.
Comment on enchaîne
Vas-y, Asphalte.
Eh ben,
Il y a un petit message à passer.
Oui, j'ai un petit message. C'est l'Eratum, en fait. Vous rappelez l'auditeur du kilomètre 44 qui avait un message privé, et alors qu'il voudrait faire des modifications, je cite « Malgré l'hiver, tu m'as réchauffé le cœur, princesse ardente, j'avais les mains pleines de rondins et la tête pleine de toi. Je t'attends », c'est donc signé Congo Bleu au kilomètre 44.
C'est la matinale. Oh, oh,
oh, oh. C'est normal.
Tout, 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 tout. Quelques informations, vous êtes très nombreux à nous appeler. Nous faisons le maximum pour relayer vos messages.
Au kilomètre 67, un habitant a besoin d'un coup de main gracieux pour évacuer des troncs. Kilomètre 67.
Kilomètre 636, une question. Quelqu'un disposerait-il d'un outil tranchant pour élaguer les branches? Nous sommes prêts à louer l'engin. 25 centilitres d'eau la journée. Et par ailleurs, je vous rappelle que 3 écoles sont ouvertes. Il y a une primaire de 18 places qui se trouve au kilomètre 89.
Pour la rallier, un pédibus a été mis en place. 2 départs possibles, kilomètre 96 et kilomètre 91. Dans les 2 cas, rendez-vous tous les matins. Tous les matins de la semaine à 8h, l'école commençant à 9.
Et puis un collège de 54 places au kilomètre 389, un lycée de 67 places au kilomètre 637.
D'autres classes devraient ouvrir, ne vous inquiétez pas, prochainement au kilomètre 876 et 456. Vous pouvez donner un coup de main à la construction des bâtiments.
Et pour que les écoliers soient à l'abri des intempéries, n'oubliez pas de bien serrer les rondins entre eux avec de jolis nœuds, comme nous l'a expliqué notre auditeur Cordoba Gris.
Et je voudrais apporter un nouvel erratum à un message personnel qu'un auditeur de la A747 cherche à nous faire passer.
Du kilomètre 44, c'est
voilà.
Toujours le même.
444. Ouais. Je cite donc, il fait froid, mais tu me réchauffes le corps. Je suis chaud comme une braise de la forêt de la Combe de Lancey. Viens à me souder.
Non, rigolez pas. Oh non,
pardon.
Monsieur, pardon.
Excusez-moi, Kangou Bleu. Excusez-moi, Kangou Bleu du kilomètre 444. Viens à me souder dans ma Benz. Signé Kangou Bleu, kilomètre 444.
Laisse-moi souder dans ta Benz. Quand tu pointes ton bump, ça me rend dingue. Laisse-moi souder dans ta Benz. Quand tu pointes ton bump, ça me rend ding. Girl, t'es sexy, viens voir Co-City. Original ragaman dans la ville de Paris. Girl, t'es jolie dans ton Versace. Viens t'amuser avec un DJ top celebrity. Et c'est one push, carré sur le groove. J'aime les girls, surtout quand les girls.
Eh bien, on va tout de suite voir si notre cher Pierre Pilate est un peu plus disponible à présent. Allô Pierre ?
Oui, bonjour.
On vous dérange plus là ?
Excusez-moi pour tout à l'heure, mais vous savez, je suis un petit peu surchargé là. Je m'occupais des éleveurs, des maraîchers du coin qui viennent nous approvisionner.
Ouais.
Et en plus, vous savez, aujourd'hui, c'est le grand jour, on déménage. Voilà. Oui.
Vous déménagez.
Oui, vous comprenez, ma voiture, la Renault 21, là.
Ouais.
Comme c'est l'épicerie du kilomètre 325, il y avait plus assez de place avec les stocks. Donc finalement, je vais m'installer chez Clio.
Ah mais c'est une super nouvelle.
C'est ça. Ben alors écoutez,
oui.
Regardez le coca. Pardon.
Donc on a fait des travaux. Une chambre de plus.
Une chambre de plus.
C'est-à-dire.
Non. Clio, elle attend un petit.
Non.
Yes.
C'est vraiment la bonne nouvelle.
Raph est debout la table de mixage.
C'est super, c'est génial.
Une naissance dans l'embouteillage.
Bravo.
Mais du coup,
ouais.
Ce serait bien.
Vous préfériez quoi? Une fille, ouais.
Ou alors un garçon, voyez-vous?
Ouais, soit l'un, soit l'autre, quoi. Oui. Bon, bah écoutez,
on est content pour vous, Pierre.
Moi aussi.
Voilà.
Bon.
Merci, Pierre.
Je vous laisse, parce que là,
ouais.
Faut que j'y retourne, mais il y a un collègue qui doit me donner un petit coup de main, là, pour fabriquer un landau.
Oh là là.
Plus tard, hein.
Bonne journée, Pierre. Allez, à
salut,
plus tard.
Pierre.
Salut, papa.
La minute de Monsieur Gras. Qui ne l'est pas.
Un des éléments les plus regrettables finalement de ce tissu, c'est que les maisons sont toujours implantées au milieu de la parcelle. Et en s'implantant au milieu de la parcelle, elle se laisse très très peu d'opportunités pour s'agrandir. Si la porte du garage était sur la voirie, on pourrait directement rentrer finalement la voiture dans le garage. Et de ce fait, libérer une partie du terrain qui permettrait, s'il y a un enfant qui arrive, etc., possibilité d'accueillir une chambre de plus, un bureau, louer un studio à des étudiants, etc., toute l'évolution de la vie finalement, d'être possible. Or, la critique qu'on peut faire, c'est que cette maison a stérilisé les potentialités finalement d'extension et d'adaptation à la vie. Là, le garage est bien entendu au sud. C'est très peu en lien avec le paysage et le climat. Sous une tuile rouge comme ça, en été, il fait très, très vite 60 degrés. Dans un toit comme ça. Là, elle a été étanchéifiée, la maison. Hein. On a mis des pavés autobloquants partout autour parce qu'on voit qu'il y a un petit enfant là, qui doit apprendre à faire du vélo. Il ne faut pas ramener de poussière, de saleté dans la maison. Donc, on a voulu s'installer quand même en milieu rural, mais on ne veut surtout pas que la terre rentre dans la maison. Donc, c'est pour ça que j'appelais ces maisons un petit peu hors sol. Ces maisons n'ont rien de patrimonial. Ce sont des maisons totalement standardisées, représentant, enfin, qui sont évocatrices finalement. D'un mode de pensée, d'un mode de vie, vraiment de notre époque, qui ne sera sans doute plus du tout celui dans 10 ans le même et qui n'est pas celui d'il y a 30 ans. Donc il n'y a pas de raison que l'architecture n'évolue pas.
Merci Monsieur Gras, à bientôt.
Et bien voilà, c'est la fin de cette matinale, 4 mois après le début de l'embouteillage de la A747.
Que de temps écoulé depuis 4 mois et que ouais. De choses se sont passées, mon cher Grizzly, c'est incroyable, on a l'impression que c'était hier et puis finalement on prend nos habitudes. Voilà.
Et ils sont chauds, hein. Ils sont chauds aujourd'hui dans l'embouteillage.
Oui, c'est le
kilomètre 444 qui zamzouzait dans sa Benz, des naissances.
C'est vrai que l'inaction,
ça
toujours,
partout, tout ça, quoi.
Peut-être que, non, même pas peut-être, demain, on sera là, s'il n'y a pas de raison que ça change.
Voilà.
Maintenant, on est bien installés tranquillement. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, à vous demander, à ne pas hésiter, et surtout, n'oubliez pas
de froisser la tôle.